Bonjour à tous. À la une ce matin, ici, tout compte fait, les riches payaient un peu plus. La majorité cherche une sortie honorable face aux critiques sur la quasi-suppression de l'ISF. Les lingots d'or, les yachts et autres voitures de luxe pourraient être taxés davantage. Le détail dans un instant. Dans 20 minutes, c'est la politique économique d'Emmanuel Macron que vous passez au crible, Nicolas, avec votre invité.
Oui, l'économiste Daniel Cohen. Il était soutien de Benoît Hamon pendant la présidentielle. La France de Macron peut-elle réussir sur le plan économique? On lui posera la question tout à l'heure. Les vôtres au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, l'Espagne qui retient son souffle à deux jours du vote sur l'indépendance en Catalogne. Les autorités espagnoles font tout pour empêcher le scrutin qu'elles jugent illégal. Attendez-vous à voir votre mutuelle augmenter l'an prochain, conséquence des mesures d'économie décidées pour la Sécu. Un rappeur à la barre, Rof, jugé aujourd'hui pour une expédition punitive contre son grand rival Booba. Et puis dans un autre genre, les fourberies de Scapin à la Comédie-Française.
France Inter.
C'est une petite musique qui monte et qui est en train d'embarrasser le gouvernement. Emmanuel Macron est-il le président des riches? Polémique qui a valu à son premier ministre Édouard Philippe de passer sur le grill hier soir lors de son intervention dans l'émission politique de France 2. Obligé de défendre à plusieurs reprises la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune, il ne concernera plus que les biens immobiliers désormais, avec à la clé un cadeau de 4 milliards d'euros pour les Français les plus aisés.
Je sais très bien que spontanément la suppression de l'ISF, ça n'est pas populaire. Et j'assume de le faire parce que je pense que c'est utile pour l'économie française, pour la production, pour l'investissement. Toutes les valeurs mobilières, les signes extérieurs de richesse comme vous les appelez, toutes les valeurs mobilières, vous avez parlé des yachts, des jets, vous auriez pu parler des œuvres d'art. Dès lors qu'on spécialise l'ISF sur les valeurs immobilières, elles ne seront plus taxées à l'ISF. Encore une fois, je l'assume, notre objectif c'est de faire en sorte que le capital reste en France et même d'attirer des gens, y compris des gens riches, en France, parce qu'ils paieront des impôts, parce qu'ils participeront à la production de la richesse.
Voilà pour l'acte 1, les mots du Premier ministre hier soir à la télé, mais dans le même temps, il semble bien que la majorité soit prête à lâcher du lest sur ce dossier toujours sensible. Bonjour Michaël Thébault.
Et bonjour Marc.
C'est le rapporteur du budget qui vend la mèche ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pas question de rétablir l'ISF, ancienne formule, cela ferait désordre, mais ces fameux signes extérieurs de richesse pourraient être taxés davantage.
Exactement, et on l'entendait à l'instant avec le Premier ministre. Alors une voiture de luxe, des lingots d'or, un yacht, un jet privé, des œuvres d'art ou encore des chevaux de course, c'est m'as-tu vu, et surtout ce n'est pas productif pour l'économie. Et c'est Joël Giraud lui-même qui le dit, lui le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, poste ô combien stratégique puisqu'il assure le lien entre le gouvernement et les députés pendant toute la durée des discussions sur le budget. C'est donc lui justement qui peut modifier ou améliorer le texte via des amendements, et il a apparemment trouvé la parade, ou si vous préférez le compromis, pour atténuer cette petite musique d'un budget pour les riches. L'idée est simple. Pas question, comme le réclament certains députés de la majorité, de réintégrer ces signes extérieurs de richesse dans l'assiette de l'IFI, mais simplement de les taxer davantage par catégorie, et avec l'idée, ce qui est plutôt habile, que le produit de ces taxes soit versé à des missions d'intérêt général. Exemple, vous possédez un jet, et bien la taxe servira à lutter contre la pollution de l'air. Vous avez un yacht chanceux,
comment vous savez ?
Vous contribuerez à financer la sécurisation des côtes, Marc. Et comme le résume un commissaire des finances de la majorité, budgétairement c'est peanuts, mais politiquement, la symbolique est très forte.
Merci Michaël Thébault. Et pendant que la majorité refait ses comptes, les mutuelles, elles aussi, sortent la calculette. Elles seront mises à contribution lourdement l'an prochain, à travers notamment la hausse du forfait hospitalier qui va augmenter de 2 euros. D'accord pour rembourser plus, disent-elles, mais au final, ce sont bien les assurés qui verront leurs cotisations augmenter. Thierry Baudet, le président de la Mutualité française.
Cette dépense supplémentaire, elle va s'ajouter à d'autres dépenses déjà connues, puisque au cours de l'année 2018, les complémentaires vont devoir supporter les nouvelles rémunérations des pharmaciens à hauteur de 55 millions globalement, les nouvelles rémunérations des médecins à hauteur de 175 millions. Ça fait donc une facture globale de 400 millions d'euros. Le forfait hospitalier n'est pas la seule mesure qui va avoir un impact sur les dépenses des mutuelles. Le forfait hospitalier, plus ce que nous avions déjà anticipé, va amener les mutuelles à répercuter ces hausses sur les cotisations. Naturellement, les mutuelles, elles vont le faire de la manière la plus responsable possible, en essayant de contenir au maximum ces évolutions, parce que nous savons que les Français, nos adhérents, pour bon nombre d'entre eux, ils regardent déjà leurs cotisations à l'euro près.
Thierry Baudet, joint par Delphine Simon.
8h05, le compte à rebours en Espagne.
Nous sommes à 48 heures maintenant du référendum en Catalogne, pour ou contre l'indépendance de la région. Mais personne ne sait si le scrutin pourra se dérouler et si oui, comment. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Marc.
En direct de Barcelone, le gouvernement espagnol fait tout pour empêcher la tenue du scrutin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être particulièrement motivé pour aller voter après-demain.
Oui, premier obstacle à franchir, trouver un bureau de vote en fonction de son domicile. Les organisateurs du référendum avaient prévu d'orienter les électeurs grâce à des sites internet. Ils sont bloqués les uns après les autres, plus de 150 d'entre eux étant désormais inaccessibles. Deuxième difficulté, la mise sous scellé des bâtiments publics susceptibles d'accueillir des bureaux de vote. La police interdira l'accès aux écoles et lycées cet après-midi dès la fin des cours en établissant un périmètre de surveillance dans un rayon de 100 mètres pour éviter, dimanche, un vote à proximité. Troisième problème pour les électeurs potentiels, obtenir des bulletins de vote. La justice en a fait saisir plus de 12 millions et confisquer tout ce qui peut ressembler à des urnes. Les perquisitions vont se poursuivre. Le gouvernement catalan assure détenir des listes électorales, des données volées selon Madrid, mais leur fiabilité reste à vérifier. Enfin, 10 000 hommes sont arrivés ici pour interdire le vote. Garde civile, police nationale, force anti-émeute, auxquelles s'ajoutent plus de 17 000 membres des Mossos d'Esquadra, la police catalane, placée depuis quelques jours sous l'autorité du gouvernement espagnol.
Bertrand Galichet, merci à vous avec Marc Garvenès à la technique. Toujours à l'étranger, la fin d'un long silence, muet depuis un an, donné pour mort, même par certains. Le chef du groupe État islamique Abou Bakr el-Baghdadi reprend la parole dans un enregistrement audio. Il appelle ses combattants à résister à ses ennemis, alors que son organisation vient de subir plusieurs revers en Irak ou en Syrie. Il n'y a pas de raison de douter de l'authenticité de l'enregistrement, estime Washington.
Vos papiers, je reprends, vos papiers s'il vous plaît. Voilà une petite phrase, Marc, qu'on n'a pas fini d'entendre.
Oui, pas forcément avec ce ton-là d'ailleurs, oui, si peut-être. L'on en croit les opposants à la loi contre le terrorisme dont les députés ont achevé l'examen hier soir. Son article 10 prévoit en effet de renforcer les pouvoirs de contrôle dans les zones frontalières, mais aussi aux abords des gares et dans un rayon de 20 km autour des ports et des aéroports. Autant dire que la plupart des grandes villes sont concernées. Mais une autre mesure fait aussi débat, c'est l'obligation pour un suspect de fournir tous ses numéros de téléphone, ses mots de passe et ses identifiants numériques, obligation qui pose de très nombreuses questions. Corinne Audouin.
Le ministère de l'Intérieur pourra exiger d'une personne considérée comme suspecte, mais qui ne fait pas l'objet d'une enquête judiciaire, qu'elle remette tous ses identifiants numériques. Adresse mail, pseudo sur les réseaux sociaux, identifiant sur un site d'achat en ligne. Il ne faudra en oublier aucun. L'obligation sera prononcée pour une durée de 6 mois, renouvelable une seule fois. Une mesure administrative donc, hors de toute procédure judiciaire, mais dont la violation sera punie par la loi. Refuser de remettre ses identifiants fera encourir une peine de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Au Sénat, cette obligation avait été supprimée. Les parlementaires pointaient que la mesure est attentatoire aux libertés et contradictoire avec la Constitution. Comme l'a rappelé récemment le Conseil constitutionnel, nul n'est tenu de s'accuser soi-même. C'est d'après ce principe qu'un gardé à vue, un mis en examen ou un prévenu a le droit de garder le silence. Il semble donc compliqué d'obliger quelqu'un à fournir des identifiants qui permettraient à la police de le suivre numériquement à la trace.
Vote solennel mardi prochain à l'Assemblée nationale. Qu'il révèle ce qu'il sait, qu'il dise ce qui s'est passé. Les parents de la petite Maëlys, disparue depuis un mois en Isère, lancent un appel aux suspects interpellés dans cette affaire pour qu'ils coopèrent avec les enquêteurs. L'homme est mis en examen et écroué depuis le début du mois, mais il nie être impliqué dans l'enlèvement. Nous ne cherchons pas un coupable à tout prix, dit la mère de l'enfant, mais vu son attitude étrange lors du mariage, nous lui demandons de révéler ce qu'il sait. C'est une forme de maltraitance qui tue 40 nourrissons chaque année, sans compter les 200 autres qui en gardent souvent des séquelles irréparables. La Haute Autorité de Santé publie aujourd'hui ses recommandations sur le syndrome des bébés secoués, quand leurs parents ou leurs nounous, ne supportant plus leurs cris ou leurs pleurs, en viennent à les secouer de manière violente. Les recommandations concernent à la fois le diagnostic à poser sur ces enfants, mais aussi les comportements à adopter. Daniel Messager.
Nathan avait 4 mois quand il a été secoué par sa nourrice. Aujourd'hui, à 10 ans, il accuse un retard mental et moteur et nécessite de la part de son entourage, dont son père David, une attention constante.
Nathan, c'est simplement un enfant avec le lobe gauche du cerveau atrophié. Il a la moitié du cerveau grillé, ça ne se répare pas. La moitié de son corps ne répond pas parce que la pièce moteur est touchée. Et le nôtre, apparemment, ce n'était pas qu'une fois, ça a été secoué plusieurs fois. la violence du choc qu'il faut quand même pour arriver à déchirer des veines caves du cerveau. Enfin, j'aurais préféré qu'on lui coupe un bras et qu'il garde toute sa tête.
Pour ne pas passer à côté de cette maltraitance, la Haute Autorité de Santé insiste, entre autres, dans ses recommandations sur la formation des médecins, poser le bon diagnostic. Le docteur Anne-Laurent Vanier a présidé ce groupe de travail.
C'est des lésions très particulières du sang entre le cerveau et le crâne, sous la dure mère qui est une méninge. Et ce hématome sous-dural a la particularité d'être en nappe. Ça se retrouve uniquement dans des accidents de la voie publique très violents. Or là, on sait bien que le bébé n'a pas eu un accident de la voie publique très violent.
Parmi les recommandations aussi, ce message aux parents et nourrices, si vous ne supportez plus les pleurs du bébé, couchez-le sur le dos, dans son lit, il ne craint rien. Sortez de la pièce, faites-vous aider. Un message que David aurait tellement aimé que la nourrice de Nathan entende.
Qu'est-ce qu'il va devenir? Moi aujourd'hui je suis là, je peux le protéger. Demain il vient quoi le gamin? Secouez pas les enfants, ça il faut pas.
Reportage Daniel Messager. Que se passe-t-il au CHU de Nantes? La CFDT dénonce l'existence d'un trafic de drogue à l'intérieur de l'hôpital. Des personnes extérieures à l'établissement viendraient vendre des stupéfiants à des malades, ce qui entraverait notamment les traitements de certains patients placés en cure de désintoxication. Le procès du rappeur Rof s'ouvre aujourd'hui à Paris. Procès pour violence aggravée après une expédition punitive en 2014. Lui et son garde du corps s'en étaient pris au personnel d'une boutique appartenant à son meilleur ennemi et rival, le rappeur Booba. Point d'orgue, si l'on ose dire, d'une rivalité de plusieurs années entre les deux artistes. Camille Revel.
Premier acte, Rof diffuse sur les réseaux sociaux la parodie d'un clip de Booba, accompagné de quelques commentaires bien sentis. Réponse immédiate et tout aussi riche en insultes du rappeur, « Trouve-moi à Paname », mais il est alors à Miami. Peu importe, le lendemain à 18h, Rof, accompagné d'un petit groupe, entre dans la boutique de son ennemi dans le quartier des Halles, fait signe à un vendeur de 19 ans de le suivre et se jette sur le jeune homme, qu'il frappe à coups de poing et coups de pied. D'autres agresseurs s'acharnent aussi sur la victime, inconsciente et au sol. Un deuxième employé tente de s'interposer, il est frappé à son tour, puis le groupe repart après avoir saccagé le magasin. La scène dure 40 secondes, elle est filmée par les caméras de vidéosurveillance. Quelques heures plus tard, Rof se rend à la police, il explique que les hommes qui l'accompagnaient étaient des fans rencontrés par hasard, qu'ils lui ont conseillé d'en découdre et que le vendeur, dit-il, l'a traité avec mépris. Mais pour les enquêteurs, c'est une expédition punitive préméditée. Rof est mis en examen, tout comme son garde du corps. Trois ans plus tard, l'inimitié entre les deux rappeurs reste tout aussi forte et Rof lui annonce la sortie d'un nouveau morceau aujourd'hui.
8h12 marque les régions XXL, fêtent leur premier anniversaire.
Il y a un an tout juste, les noms des 13 nouvelles régions étaient adoptés, 13 au lieu de 22. Au passage, la plupart s'étaient donc agrandies, avec des conséquences qui continuent de se faire sentir. Ainsi, dans les Hauts-de-France, qui regroupent la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, les clubs de sport ont dû s'organiser car les déplacements, eux aussi, sont devenus XXL. Reportage Sébastien Sabiron.
À 19 ans, Chloé Casier est un espoir de la natation picarde. La nageuse de Beauvais mène de front le haut niveau et ses études d'ingénieur, avec quelques complications depuis la réforme des régions.
Le regroupement des régions, ça engendre davantage de déplacements en compétition, en stage. Quand on se déplace sur de longs trajets comme ça, je dois louper davantage de cours. C'est une autre gestion du temps.
D'ici fin décembre, les 4 compétitions de natation régionale auront lieu dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais. Des déplacements forcément coûteux pour les clubs de l'ex-Picardie. Olivier Dubois, directeur technique du Beauvaisis Aquatic Club.
2h30 voire 3h de route, plus un hébergement, donc un coût supplémentaire. Quand on a 10 nageurs, 10 nuitées, 10 repas, donc ça coûte beaucoup plus que ça ne coûtait avant. C'est une réalité aussi qu'on est le petit Picard face au grand Nord-Pas-de-Calais.
Car historiquement, le sport nordiste est mieux doté en termes d'équipement, mieux subventionné aussi que le sport Picard. Et pour le moment, selon Philippe Vibert, adjoint au sport à la mairie de Beauvais, la création d'une grande région n'y a pas changé grand-chose.
Les clubs Picard se sentent lésés par cette fusion. Je prends un exemple, le club de volley de Beauvais touchait l'année dernière 0 euros de la part de la région, alors que le club de Arme, dans le Pas-de-Calais, touchait plus de 30 000 euros.
La région promet que les subventions seront harmonisées progressivement, soulagement pour les clubs qui en bénéficient. En revanche, certains plus modestes, en foot notamment, pourraient choisir de ne jouer qu'au niveau départemental pour s'éviter de coûteux déplacements régionaux.
Elle aussi vient du Nord, elle aussi a fait un très long voyage. Lynn Renaud était à Las Vegas cette nuit pour inaugurer une rue à son nom en présence du maire de la ville, située entre la rue Frank Sinatra et la rue Dean Martin. S'il vous plaît, c'est une petite allée qui portera le nom de l'actrice de 89 ans.
Et enfin, revoici Molière à la Comédie Française.
Pour un retour aux sources, en quelque sorte, puisque c'est là qu'en 1671, Molière avait joué pour la première fois les Fourberies de Scapin. Aujourd'hui, c'est Denis Podalydès qui signe la mise en scène de cette même pièce, avec dans le rôle titre le jeune pensionnaire Benjamin Laverne. Succès garanti, nous dit Stéphane Capron.
Benjamin Laverne risque de devenir la nouvelle coqueluche de la Comédie française. Entré il y a tout juste 5 ans dans la troupe, il décroche un rôle convoité. Cela fait plus de 15 ans que la pièce n'avait plus été montée dans la salle Richelieu. Il incarne un scapin bondissant. On dirait un petit lutin sorti de sa boîte. Il n'est pas non plus dénué de sex appeal. Il compose un scapin romantique et facétieux.
C'est tellement un rôle pour l'acteur, c'est tellement un cadeau que Molière s'est fait en s'écrivant ça. Scapin, il met en scène, il fait tout, c'est un artiste total, il met en scène, il joue les rôles à l'intérieur de sa propre pièce, il joue le rôle du père. À la fin, il s'offre le luxe de jouer 6 rôles. C'est un espèce de cadeau que Denis m'a fait. Et je sens déjà, oui, que moi, ça me change, ça me bouleverse. Enfin, ça... Jouer ça, c'est dingue en fait, c'est dingue, je réalise petit à petit, mais c'est fou.
La mise en scène de Denis Podalydès est décapante et haletante. Le public ne boude pas son plaisir, surtout dans la célèbre scène du sac, quand Scapin donne des coups de bâton à Géronte, un rôle tenu par l'immense Didier Sandre. Le comédien, élevé au théâtre de Chéreau et de Vitesse, montre toute l'étendue de son talent dans ce rôle de pure comédie. Le visage buriné, tel un corsaire bourru, sorti de sa galère, il est épatant, il n'est pas non plus étranger à la réussite de ce Scapin.
Scapin à la Comédie-Française à Paris, c'est en alternance jusqu'au 11 février prochain, Nicolas.
Merci Marc Fauvel.